petit bonhomme, dans tes fossettes, il y a la vie qui vient de loin. Le monde est cul par-dessus tête, il broie les hommes et tourne en vain. Petit bonhomme tombé du ciel, qui saura voir ce beau levain, cette eau de source qui ruisselle, ces gouttes d'or entre tes mains. Que feras-tu de tes 10 doigts, magasinier, coursier, livreur, veilleur de nuit ou sans emploi, joueur de couteau, truand, dealer?
Dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. Et c'est le numéro d'Idéaux et Débats du jour, avec au programme deux romans. Un premier qui s'intitule « À cheval sur le vent », qui est de notre ami Patrick Péchereau et qui est paru aux éditions Bruno Doucet. Un très beau roman autour du personnage de Xavier Gral. Et en deuxième partie d'émission, nous retrouverons Emma Tolozan pour un premier roman qui est paru chez De Noël. Premier roman intitulé « Le rire des autres ». Voilà pour le programme de cette émission. On retrouve tout de suite Patrick Péchereau, « À cheval sur le vent » aux éditions Bruno Doucet. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de retrouver un fidèle de l'émission, il s'agit de Patrick Péchereau, et qui là nous revient avec un ouvrage un petit peu différent, qui m'a beaucoup touchée et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur quelqu'un que je ne connaissais pas bien, puisque c'est un ouvrage qui est consacré à Xavier Graal, dont j'avais lu quelques poèmes, mais sans plus, quoi. Je connaissais pas du tout son histoire. Et là, ce livre s'intitule « À cheval sur le vent ». Je trouve que le titre est très bien trouvé, on va en parler dans quelques instants. Et c'est paru aux éditions Bruno Doucet. Alors, comment t'es venue l'idée de ce livre ? C'est par amour de Xavier Graal. Bon, alors, qui dit Patrick Péchereau dit aussi contexte historique, dit beaucoup de choses qui ressortent au travers de ce livre. Mais voilà, comment il est né ?
Alors, il est né, comme tu l'as dit, par amour de Xavier Graal, et puis par un coup de cœur pour cette collection que m'avait fait découvrir Didier Deninx, qui est un des premiers à avoir publié dans cette collection chez Bruno Doucet, cette collection qui s'appelle Sur le fil et qui est dirigée par Muriel Zach. Donc ça renvoie aussi à ta réflexion sur l'histoire, puisque cette collection, qui est une collection de romans, hein, contrairement aux autres publications de Bruno Doucet qui sont
la poésie,
a pour particularité de prendre un poète et de le placer dans une période historique. Soit pour laquelle il a eu de l'importance, soit, à l'inverse, une période historique qui a eu de l'importance pour lui. Voilà. Quand quand cette envie d'écrire sur Graal m'a pris, ben, j'ai proposé à Muriel d'abord le nom de ce poète, et puis aussi de le placer dans une période historique qui a eu de l'importance pour lui, qui est la guerre d'Algérie.
Voilà. Et qui a eu de l'importance pour toi, puisque tu l'as déjà abordé également sur le plan de l'écriture.
Oui, je l'ai abordé dans
Evel.
Voilà, sur le plan de l'écriture, en effet. Et voilà, dans le monde du polar, je ne suis pas le seul à l'avoir abordé. Maintenant, nous sommes un certain nombre. Les deux premiers avaient été Claude Néron avec Max et les Ferrailleurs, puis Didier Deninx avec
Meurtre
pour mémoire.
Alors, Xavier Graal, je crois qu'il est important de parler de lui. On va le faire dans quelques instants, mais je reviens au titre, à ce titre que tu as choisi, qui lui va très très bien, en fait.
Il lui va d'autant mieux que c'est une phrase qu'il avait lui-même placée en exergue d'un de ses recueils de poèmes, « À cheval sur le vent », et qui est extrait du livre de Job. Voilà. Et d'abord, cette image est très belle, et je trouve qu'elle va bien à Xavier Graal, qui était quand même un personnage, je dirais, écorché. Donc on imagine avec tous ses tourments, ces tourmentes venteuses, et puis il y a le climat breton aussi, hein, et quelque part il y a un peu de vent sur les pointes, voilà. Donc tout ça a fait que ça s'est vite imposé à moi, et puis c'était vraiment là un clin d'œil à Graal, puisque j'ai repris cette phrase d'exergue.
Bien sûr. Alors il y a le climat breton avec le vent breton, mais il y a aussi le sirocco.
Voilà,
et les deux sont inséparables d'une certaine manière, parce que ce qui ressort tout au long du livre, on va en parler du livre dans quelques instants, c'est que pour lui, le séjour qu'il a fait au Maghreb, dans le cadre de son départ comme militaire, et son amour de la Bretagne, il y a une espèce d'interpénétration entre les deux. Il est des deux, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est que pour lui, que ce soit les paysages du Maghreb ou les paysages bretons, ils ont tous la même force. Et ils suscitent tous des images très très fortes chez lui.
Oui, il est allé deux fois. Enfin, après, il est allé comme journaliste, mais pardon, il est allé deux fois au Maghreb. Sur des longues périodes, une fois lors de son service militaire qu'il a fait au Maroc.
Ouais.
À l'époque, ça durait plus longtemps qu'aujourd'hui. Et puis une deuxième fois, il a été rappelé pendant la guerre d'Algérie. Il a été rappelé, donc là, c'était en Algérie. Et il a eu vraiment une sorte d'illumination pour le Maghreb à travers le Maroc, à travers les paysages du Maghreb, à travers tout ce que ça a pu lui rappeler aussi, peut-être, parce qu'il était très, très rimbaldien.
Oui, bah il a écrit un livre sur Rimbaud.
Il a écrit un livre sur Rimbaud, donc voilà, tout ça l'a vraiment touché de façon très sensuelle, le Maghreb, et puis de façon très, comment dire, très blessante, très écorchante avec la guerre d'Algérie, puisque là il l'a vu, même si le Maroc n'était pas complètement calme, mais c'était tout à fait une autre dimension que la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, là, ça a été la découverte dans ce Maghreb, ce pays de couleurs franches, de lumière, ça a été la découverte de l'horreur et probablement de sa, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut en mettre ou pas, d'ailleurs, de sa bretonitude, parce qu'avant, il était très, 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 très français, Xavier Gral. Et, voilà, la France, c'était pour lui quelque chose d'important. Et il a été témoin en Algérie de scènes qui lui ont fait douter
du
de
pays.
La France, et donc ils l'ont beaucoup rapproché de la Bretagne, à tel point qu'il ne s'est plus senti du tout français, mais breton, hein, comme le disait, je crois que c'était Le Besque, à chacun l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. Voilà, lui, sa découverte de son âme bretonne, si on peut dire, ça a été le Maghreb. Quand il a vu, dit-il, ce que les Français ont fait aux Algériens, il s'est plus senti
français. Tout à fait. Et ce qui, je vais revenir sur le côté positif, sur la sensorialité, sur les images, sur ces paysages, parce qu'il y a une autre chose qu'il a découverte là-bas, c'est qu'il a lu Camus là-bas.
Oui.
Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on évoquait Rimbaud. Alors, il évoque Rimbaud, effectivement, le départ en Abyssinie, à Harare et autres, mais il va lire Camus, il va découvrir Camus, il va découvrir le flamboiement, les paysages, tout ça, ça va être quelque chose qui va résonner très très fort en lui. Il ira sur la tombe du père de Camus, qui est en Bretagne, le livre se déroule aussi au moment où Camus va mourir. Donc Camus est extrêmement présent, c'est une espèce de fil rouge que tu tires un petit peu tout au long de ce roman.
Voilà, il a découvert, alors peut-être l'avait-il lu avant, mais il a eu un flash pour Camus lorsqu'il était là-bas, et au moment où il faisait une mission assez dangereuse, il s'est réfugié dans Camus, si on peut dire, avec Nos
oui.
et ses livres très très sensibles,
très solaire, aussi, très solaire, ouais.
Très très solaire de Camus, et probablement en partageait-il aussi la philosophie sur l'Algérie et sur les bourreaux qu'on pouvait trouver des deux côtés, car il y a eu aussi des bourreaux algériens. La visite sur la tombe de Camus, ça c'est fictionnel. Hein, je me suis permis de l'inventer. Je me suis permis de l'inventer parce que je trouvais que voilà, le père de Camus est enterré à Saint-Brieuc, puisque voilà, il est mort dans une autre guerre. Il a été transporté d'hôpital en hôpital jusqu'à Saint-Brieuc où il est mort. Faisait un lien supplémentaire en plus entre Graal, Camus, Graal,
la Bretagne.
Graal, la Bretagne, l'Algérie, la Bretagne, puisque les parents de Camus étaient des petits colons, quoi. Ils étaient un peu dans la misère, les parents de Camus. Donc, et tout ça faisait un lien avec l'amour en plus que portait Xavier Graal à Camus. Et il a effectivement, pour la vie Cato, il a fait des papiers au moment de la mort de Camus. Oui.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement toute la veine et puis voilà. Simplement toute la veine et puis voilà. Simplement toute la veine et puis voilà.
Alors, effectivement, on a évoqué le fait que c'était un poète, que c'était un auteur, mais au moment où tu nous le présentes, il est journaliste. Oui. Il a été repéré par quelqu'un qui l'a pris un petit peu sous son aile et qui espère qu'il deviendra ensuite, qu'il va pouvoir monter dans la hiérarchie. Donc il écrit effectivement ses articles, mais c'est une grande gueule qu'on ne fait pas taire.
Non, effectivement, il a quitté la Bretagne pardon, pour faire l'école de journaliste à Paris. Et il a rencontré Jean Jourdain, qui était à l'époque le directeur, le créateur, je pense même, notamment de la Vie catholique. C'était quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans la presse catho, je dirais, de gauche ou de centre-gauche, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, le christianisme social, quoi. Et d'ailleurs, les parents de le père de Graal étaient adhérents à un mouvement qui s'appelait le Sillon, de Marc Sangnier, qui faisait partie de cette pensée sociale chez Cato.
Je me permets de t'interrompre, ce qui était assez répandu à l'époque, parce qu'effectivement, il y avait la JOC, il y avait la GEC, il y avait la JAC, il y avait Lanza del Vasto, il y avait des gens comme ça. Enfin, c'était pas du tout cette figure du christianisme très, et de l'Église très... voilà. Tout à fait. Voilà. Il y avait une ouverture.
Et Jourdain le repère, il repère ses talents de plume, donc il le prend à la Vie catholique, qui à l'époque s'appelait la Vie catholique illustrée. Dans certaines couvertures sur Google, le val de déplacement quand même. Et Graal écrit dans la Vie des articles, des billets, des... il y sera responsable d'un questionnaire que la Vie fera à destination des soldats qui servent en Algérie, puisque à l'époque, la Vie catholique était distribuée comme toute bonne lecture dans les casernes. Et donc là, la Vie catholique sera interdite dans les casernes.
Parce qu'il faut dire que les témoignages sont...
Ah, les témoignages sont terribles.
Sont terribles. Et tu en cites une certaine quantité dans le livre. Quelle force. Ouais.
Ouais. Et effectivement, Jourdain voit en lui son successeur, si on peut dire, à la tête du journal. Mais Graal a un tempérament, je dirais, voilà, à cheval sur le vent, on va dire. Ouais. Donc, il est difficilement gérable. Il fait pas l'unanimité dans l'équipe parce qu'il est trop bouillonnant, sans doute peut-être pas très respectueux des horaires. Il aime bien boire des coups, tout ça fait que, pour un rédacteur-chef, il ne remplit pas vraiment toutes les qualités pour fédérer une équipe, on va dire. Donc, Jean Jourdain en est fort marré, et il abandonne le projet d'en faire le futur rédacteur-chef. Il lui confiera la rédaction en chef d'un éphémère canard qui s'appelle « Le cri des étudiants », et puis... il lui confiera après une chronique régulière. Il y a beaucoup de billets qui sont très beaux, qui peuvent parler de la Bretagne, des petites choses, du monde. Et, qu'il a commencé par faire sous le nom des billets du Logeco, parce qu'il vivait dans la Logeco en banlieue parisienne, et qui ont été repris par... on les trouve à peu près tous maintenant repris par les éditions Terre de Brume. Il y a trois volumes des billets de Graal dans la vie catholique, où il écrira jusqu'à sa mort, et puis les billets de Graal dans Le Monde, où il écrira aussi sous forme de BN.
Alors, tu évoques le fait que du Logeco, et je crois que c'est important de resituer aussi le fait que à l'époque, il y avait l'abbé Pierre, la crise du logement, que Nanterre c'était un bidonville, tous ces éléments qu'on a un peu oubliés, mais qui sont extrêmement présents aussi dans l'époque et dans la vie de Graal.
Oui, tout à fait. Nanterre, c'était un bidonville. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai été au lycée de Nanterre, et des gamins de ma classe avaient vécu au bidonville. Enfin, les cités venaient d'être construites pour reloger des gens du bidonville, mais ça a été très longtemps un des grands bidonvilles de la banlieue parisienne, Nanterre, d'où sont partis d'ailleurs un certain nombre de manifestants algériens en 61 pour la fameuse manif qui a donné lieu à une répression sanglante.
Terrible.
Donc ce bidonville est aussi présent à travers un autre personnage qui est celui de, que j'ai appelé Yvon.
Ouais, que j'aime beaucoup, qui est un très très bon personnage.
Je m'étonne pas. Qui est un personnage, lui c'est un soumis Yvon. Hein, donc lui aussi c'est un cateau.
Alors Oui, alors effectivement, c'est un cateau. Bah, il est breton aussi. On parlera de tout ce côté cateau après, mais je crois que c'est important pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire que être insoumis à l'époque, parce qu'effectivement, le statut d'objecteur de conscience n'existe pas. Louis Lecoing est en pleine grève de la faim, et choisir de ne pas partir, de refuser, c'est couillu.
Oui, ça, tout simplement, ça vous mettait au risque de la prison. Et il faut savoir que vous étiez condamné. La peine était régulièrement 2 ou 3 ans de prison. Et puis quand vous sortiez, vous représentiez l'uniforme. Voulez-vous revêtir l'uniforme ?
Non.
Il y avait des gens qui disaient non. Et hop, ils repartaient. Le plus long, je crois, c'était un témoin de Jéhovah, d'ailleurs. Hein. Qu'elle a dû faire comme ça 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus, de prison. Et chaque fois, il disait non. Voilà, donc il retournait en prison. Donc il y avait plusieurs centaines d'insoumis qui étaient en prison en France. Et c'est ce qui a justifié, suscité, motivé Louis Lecoing pour partir, pour créer ce mouvement avec Albert Camus, d'ailleurs, oui. de soutien à ceux qu'on n'appelait pas encore des objecteurs de conscience, puisqu'il n'y avait pas de statut, mais pour demander qu'il existe un statut permettant pour des gens qui étaient, pour des raisons philosophiques ou autres, opposés à l'usage des armes, de ne pas être militaires.
Oui, alors, ça paraît... c'est assez intéressant parce que nous, on a connu cette période-là, on en a connu des gens qui ont été objecteurs de conscience, etc. Mais maintenant, ça paraît tellement obsolète qu'on ne l'évoque même plus. Mais ça a été de vrais combats extrêmement importants.
Ah oui, tout à fait. C'est des combats qui ont duré longtemps. Parce que le statut, il y a eu des promesses de Gaulle. Il y a eu un mouvement de soutien populaire autour de Louis Lecoing.
Lecoing, oui, oui.
Il a réuni autour de son nom une flopée d'artistes, d'intellectuels. Alors là, les signataires des pétitions, ils ne se sont pas déjugés.
Ah oui, et puis là, tu évoques même un film où on voit...
Oui, alors, mais vraiment, il y a une liste, c'est phénoménal, quoi, phénoménal. Des gens très, 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 très connus qui soutiennent la demande d'un statut d'objecteur de conscience. Et puis, il y a eu des promesses de Gaulle qu'il a retirées parce que c'était le moment où, des militaires en Algérie commençaient à se sentir très très mal parce qu'ils voyaient venir l'indépendance et c'était le début de l'OAS. Donc, on fout un statut d'évolution de conscience. Et donc, Louis Lecoing, voyant les reculades gaullistes, se lance dans une grève de la faim et il est décidé à aller jusqu'au bout. À 77 ans, donc il est décidé à aller jusqu'au bout. Et là, de nouveau, il y a un mouvement de soutien populaire autour de la grève de la faim. Et oui, tu parlais d'un film que je cite, effectivement, c'est un film qui est très drôle, je le recommande, c'est un des polars, un des bons polars parodiques de Lautner, qui s'appelle Les Pissenlits par la Racine.
Et qui est un succès public, en plus, qui marche à fond, et il y a cette...
Et plusieurs fois dans le film, on voit des affichettes, alors que ça n'a aucune raison
d'être.
Sauvez le coin, sauvez le coin. Voilà, et le statut finira par être décroché, ouais. Mais le coin est vraiment aux portes de la mort. Et à un moment, De Gaulle dit, non, voilà, il ne faut pas que
le coin... le laisser mourir.
Voilà, d'abord, il n'a pas forcément envie, et puis en plus, voilà, ça lui retomberait sur le képi, donc non, ça ne va pas. Quoi. Donc il y a ce statut qui est voté, qui est très restrictif, et qui donnera lieu à d'autres combats après, qui se poursuivront jusque dans les années 80, ouais. Pour en élargir les possibilités.
Messieurs qu'on nomme grands, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grands, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Alors, on évoquait ce personnage d'Yvon, qui est un jeune homme qui fait partie de la JOC, dans la JAC, lui, qui est croyant, parce que la question de la foi est présente aussi dans ce roman. Et moi, j'aime bien leur manière d'aborder Dieu. Quand il va à Saint-Michel-le-Braspard et qu'il dit « je vais parler au patron », quelque part, je trouve ça touchant.
oui, ça me touche que ça me touche, parce que c'est quelque chose de personnel. J'ai fait dire à Yvon qu'il allait parler au patron. Alors voilà, j'ai livré un scoop. Un de mes meilleurs amis est diacre. Et on parle souvent. Et souvent, je lui dis, bon alors, il t'a dit quoi le patron? Et... Et donc j'ai repris cette expression parce que quand je parle du patron, il voit tout de suite de quoi il s'agit. Et effectivement, ce sont Yvon est un chrétien
social.
Oui, comme moi je les aime bien. C'est-à-dire qu'il a sa propre démarche. Il a intégré complètement pour lui le message essentiel qui est celui des béatitudes et du sermon sur la montagne, qui fait du Christ une sorte de personnage absolument non violent et en marge de beaucoup de règles de l'époque. Et voilà, il va de temps en temps sur cette chapelle qui est magnifique, ouais, et isolée.
Et qui a résisté au feu.
Qui a résisté au dernier incendie. Ouais. Voilà, ça s'est arrêté autour de la chapelle. Et quand j'étais plus jeune, j'avais été entendre des contes un soir. Je crois que c'est Patrick Ewen qui comptait un soir dans la chapelle de Saint-Michel de Braspar avec le vent autour.
Ah, j'imagine l'ambiance.
Voilà. Et ils montent se recueillir dans la solitude. Voilà, ils montent à la chapelle de Saint-Michel de Braspar, parce que c'est vrai que c'est une chapelle qui, quand on y entre, voilà, on a envie d'être seul dans le silence, de se laisser porter par les pierres, ou de méditer un peu, ou de prendre un temps de rien, quoi. Et il va parler au patron là-bas. Voilà. Donc le patron, pour lui, il est partout, dans une pierre, dans une souris qui passe, voilà. Tout ça, c'est les petits miracles du quotidien.
Et ce personnage d'Yvon, il y a ce jeu de miroir permanent avec Graal, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il a pris la décision de ne pas y aller. Et il va se nouer entre les deux hommes une histoire très particulière, puisque Yvon a lu les articles dans La Vie, et ils vont correspondre. Et le chemin que va suivre Yvon... est un chemin qui va faire beaucoup réfléchir Xavier Graal.
Voilà, alors Yvon est un personnage fictif,
bien sûr.
Effectivement, il y a les deux se rencontrent. Yvon le doux, l'insoumis doux, qui milite à l'action civique non violente après Paris, ouais, dans Ville de Nanterre, où les gens
de l'action
civique non violente vivaient avec les travailleurs émigrés de Nanterre. Et là où il se fera arrêter. Et puis, il rencontre Graal dans un bistrot, parce qu'il arrive que la Bretagne et le bistrot, ça commence par la même lettre, et c'est des lieux de convivialité, les bistrots aussi.
Oui, et puis, il est très fréquenté par Graal, quand même.
Graal la fréquente, oui.
Légèrement.
Régulièrement. Et il voit ce type, voilà, qui connaît pas son visage, mais qui l'intrigue un peu, donc il rentre en contact, comme ça, autour d'un verre, et Yvon finit par lui dire que voilà, il a décidé de ne pas partir en Algérie. Et Graal lui dit, mais attends, tu sais ce que tu vas faire. Graal peut partager ses idées, mais il sait ce que tu vas faire, tu sais à quoi tu t'engages, tout ça, est-ce que tu crois que ça vaut le coup? Et Yvon, il a cette espèce de force tranquille qui dit, bah oui, mais moi c'est comme ça, quoi. Et du coup, mon Graal, je dis mon Graal, parce que ouais, voilà, c'est une fiction.
C'est une fiction, ouais.
Mon Graal réfléchit à tout ça. Lui, il est parti en Algérie, comme la plupart des gens, des jeunes à l'époque. Il est parti en Algérie et il en revient avec une blessure terrible, puisqu'il a assisté réellement à une scène de torture. Et il en revient avec cette blessure qui va traîner tout le temps. Et il voit ce jeune type qui, lui, a décidé, dans la tranquillité de ses 18 ou de ses 20 ans, et dans la fermeté de ses opinions, mais qu'il exprime de façon très douce, voilà, c'est comme ça, qui a décidé de ne pas partir. Donc il est à la fois, quelque part, admiratif de ce courage. Il pense peut-être un peu que c'est une goutte d'eau dans l'océan, et de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, quelque part, ça renvoie à une forme de merde. Et si moi, j'avais fait pareil, oui.
C'est toute la question de l'engagement, oui, et de à quel moment on dit non.
Oui.
Et ça, c'est une question qu'on peut tous se poser.
Tout à fait. Tout à fait. Alors Graal, après, ne cessera de dire non à beaucoup de choses. Mais à quel moment on dit non, voilà, il y a des... à travers les lettres qu'il a publiées, parce que quand le questionnaire de la vie a été rendu public, enfin, il a été rendu public d'abord parce qu'il y a eu des questions qui sont parues dans la vie, et puis après ils en ont fait une exploitation avec des camemberts, des graphiques, des machins, des trucs. Mais lui, il a voulu faire un livre derrière qui s'appelle La génération du Djebel, où là réellement sont publiées énormément de réponses, de lettres de soldats. Donc ça a été sa façon aussi à lui de s'exprimer à travers ces lettres, et elles sont terribles et elles n'ont pas été triées. Alors bon, il y en a qui n'ont pas trop de regrets d'être là, qui peuvent exprimer des trucs sur il n'y a pas de perme ou des machins comme ça, mais qui ne remettent pas foncièrement en cause
ce qui s'est passé.
D'autres, en revanche, ce sont les plus nombreux qui racontent des choses terribles. Ou qui disent la révélation que pour eux ça a été, qu'on leur fasse faire ça. Ces rencontres parfois avec les Algériens, avec les paysans algériens, avec les... Et cette mise en face de deux peuples qui sont là, et eux, on les envoie là-bas pour faire la guerre, pour mater une rébellion qui n'est pas leur guerre, en fait.
Ah non.
Et on sent à travers ces lettres que certains en reviendront vraiment, vraiment amochés, quoi. Et ce qui est troublant aussi, c'est qu'il n'y a pas que des lettres d'appelés. Il y a des lettres d'engagés aussi, dont certains font cette espèce de mal-être aussi profond, quoi, d'avoir vu et fait ça.
Cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié.
Richard.
Nous avons eu nos nuits comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivait parfois.
Richard. Hé. Hey. Richard.
Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes, simplement des problèmes de mélancolie. Du comptoir. Et on se dit qu'il est bien tard. Qu'il est bien tard. Richard, encore un petit pour la route. Richard, encore un petit, vite fait. Hé, monsieur Richard, le dernier.
Oui, surtout qu'ils prennent la parole après toute une période où le silence a régné.
Oui.
Beaucoup sont revenus et n'ont rien dit de ce qui se passait là-bas. Ça a été très très long. Ça a été la publication de la question d'Henri Alleg. Ça a été un événement. Mais la libération de la parole et le fait de dire ce qui s'était passé là-bas, de témoigner chacun en tant qu'individu, ça a été extrêmement difficile. Et ça l'est toujours.
Oui, je pense que par définition, l'indicible ne se dit pas. C'est un phénomène qu'on rencontre dans beaucoup de guerres. Hein, les gens qui, on a toujours l'image de l'ancien combattant qui raconte sa guerre. En fait, c'était pas ça la vérité. C'est que très souvent, les gens n'en parlent pas. Y a des choses qu'ils taisent parce que c'est trop profond, c'est trop dur. Y a des mécanismes. Il y a un mode de résilience qui fait qu'on ne peut pas gratter toujours les plaies non plus. Voilà, mais les gens en reviennent transformés. C'est plus les mêmes. D'ailleurs, dans mon bouquin,
il y en a un qui
va craquer et se suicider, en fait. Et il faut savoir que les lettres que Graal, dont les Graal publie des extraits dans la génération du Djebel, sont des lettres qui ont été faites en plus des réponses aux questions, parce que c'était des questions fermées. Pour faire effectivement pour pouvoir les exploiter de façon un peu statistique et beaucoup ont éprouvé le besoin d'écrire en plus des réponses aux questions, ce qui a donné ce lieu à ce livre qu'on ne trouve plus, hélas, mais ou alors chez les bouquinistes, mais où là vraiment ils parlent et Graal a envie de les faire parler, de libérer, comme tu le dis, cette parole qui est enfouie, parce que voilà, on les voit toujours en train de picoler, la vie de Troufion avec ses moments d'ennui, ses moments de picole, ils sont pas toujours non plus sur le fait des opérations. Il y a tous ces mouvements aussi, tous ces moments aussi qui peuvent a posteriori être vus comme presque avilissants. Cet ennui, ces mauvaises plaisanteries qu'on fait parce qu'on est entraîné par d'autres ou pour être dans le mouvement, ou pour oublier, un peu comme les carabins font des plaisanteries quand ils ouvrent un corps. Voilà, ça peut être le cas aussi. Hein. Voilà. Et pour certains, ça a été une ouverture des yeux. Quoi.
Alors, Graal va dans le roman, est lui aussi silencieux sur son passage. Ça lui prendra du temps pour évoquer ça, malgré le fait que, j'allais dire, il est extrêmement bien entouré, parce qu'il y a un personnage très très important dans le roman, qui est Françoise. Ah, quel beau personnage aussi.
Pardon, désolé. Oui, Françoise... Françoise est l'épouse de Xavier Grade. Donc ils se sont mariés assez jeunes. Ils auront 5 filles. Hein, ouais. Que des filles. Une Grade vivra dans un gynécée toute
seule. Ça doit être terrible.
Et Françoise est très présente. Il l'appelle sa mouette.
Sa mouette,
ouais. Il l'appelle sa mouette. Et elle est tout le temps là, quoi. Elle est tout le temps près de lui, voilà, y compris quand... c'est pas l'objet du livre, mais y compris quand il a certaines dérives, voilà, un peu, comment dire, un peu alcoolisées.
Un chouïa, elle va le récupérer, oui. Voilà,
elle est là tout le temps, y compris quand il va bourlinguer avec... quand il rencontrera Glenmore, qui deviendra son grand ami, quand il va bourlinguer avec Glenmore, qui, lui non plus, ne buvait pas de l'eau de source... voilà, elle est toujours là, Françoise, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Elle s'occupe de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Elle s'occupe de lui tout le temps, et c'est vraiment un grand amour et un grand amour partagé. Mmh. Alors, évidemment, avec toute la répartition des rôles qui pouvaient
exister. Oui, à l'époque.
Dans ces années-là. Mais c'est le grand amour partagé. Et je suis content que tu aimes ce personnage, parce que j'ai essayé de la rendre comme moi je la sentais. Je n'ai jamais rencontré Françoise Grade, elle est âgée. Mais voilà, je l'ai sentie comme ça à travers les textes de...
Mais elle est drôle en plus. Elle est...
et je suis très content parce que j'ai reçu il y a quelques jours un mail des quatre filles Grade qui me remercient du livre au nom d'elles quatre et de leur maman.
Ah, c'est chouette. Alors... Tu évoquais Glenmore, parce que c'est vrai qu'il y a toute cette dimension de la Bretagne et du retour aux sources qui va l'obséder et qu'il va mettre en œuvre. Et il y a cette composante aussi, présence de la musique bretonne. On voit passer Alan Stivell quand il s'appelait pas encore Alan Stivell. Il est interviewé sur Radio Libertaire d'ailleurs, c'est
récemment là.
Ouais,
c'est 80 ans.
Ouais. Et puis effectivement, il y a Glenmore, donc avec une rencontre première qui est un peu houleuse, parce que il faut dire que chacun ont des caractères absolument incroyables.
Oui. Grade avec Renitier, je crois que c'était un 45 tours, le premier 45 tours de Glenmore dans la vie. Il avait fait une critique élogieuse. Voilà, donc,
et après, il va changer de paroisse au niveau éditorial.
Glenmore était content. Hein. Il ne se connaissait pas à l'époque. Et puis après, Grade va travailler aussi pour un magazine lancé par Botorel, je crois, qui s'appelle... Ah, j'ai oublié.
Bretagne Magazine.
C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui ressemble aujourd'hui à ça, mais je ne voudrais pas me tromper. Voilà, qui est un truc beaucoup plus...
J'allais dire un peu réac.
Voilà.
Enfin, on va dire comme ça.
Un peu réac. Et donc, j'ai imaginé la rencontre, mais pas complètement. Je me suis quand même référé à quelques sources entre Grade et Glenmore et au début, Glenmore, il dit, mais attends, Grade, c'est toi, mais pourquoi t'écris dans ce machin, cette espèce de torchon gaulliste, pourquoi t'écris là-dedans? Alors l'autre, il se braque, mais attends, j'écris ce que je veux où je veux, qui t'es, toi, pour me donner des... Voilà, donc
c'est les duels de mâles.
C'est un peu les duels des deux coqs bretons.
Heureusement, il y a une femme.
Voilà, il y a Catel, Catel Arscamp, qui était là. La compagne ou l'épouse, je ne sais plus, à l'époque de Glenmore, qu'on voit sur une des pochettes de Glenmore, où elle sert à boire, elle est debout, elle sert à boire à Glenmore et elle est au ferré.
Référence. Étonnant, non.
Et maintenant, elle est conteuse, je crois, Catherine.
Ah.
Voilà, et elle travaille beaucoup avec les enfants. Et donc, il y a cette rencontre avec Glenmore qui était très nationaliste, Glenmore, nationaliste, nationaliste breton, Stivel a une conception de la Bretagne beaucoup plus
ouverte. Ouais.
Voilà. Il y avait un de ses textes où il disait « Bretagne, tu seras une terre de refuge », etc., qui renvoie à la fameuse couverture du peuple breton aujourd'hui, avec un petit black qui est habillé en costume breton et qui porte un drapeau breton,
ouais.
Qui a déchaîné la colère de l'extrême droite bretonne.
Ah, tu m'étonnes. Bretonne.
Voilà. Et ils vont, voilà, ça va être deux amis inséparables, Glenmore et Graal, avec chacun un foutu caractère. Oui.
S'en venaient les jours, perçant le soleil. Ils me connurent dans l'éclat du matin. J'étais seul à les adorer. Voguaient au ciel des groupes de cavaliers. Comme des harpes vibraient les peupliers. J'étais seul à les entendre. C'était un pays vieux de mûriers et de pierres. Enchanteurs blessés, mes amours chaviraient les prières. S'en venaient les jours, lessivés par les pluies. Des agonies paysannes piolaient dans les grands lits. Funèbrement dans les nues erraient des ossuaires. Et les âmes en colère bousculaient les ogives. C'était un pays noir de flaques et de tourbes. Barde de la grande route, mes chansons abordaient la grande peine. S'en venaient les jours transis par le gel. Les persiennes avaient des yeux blancs. Des millions de silences gerçaient mes villages. Le ciel n'était que morne Norvège. J'étais seul à vivre en son linceul blond. Des cascades de givre j'irais dans les bois, et les lits des femmes étaient gris et froids, sans la chaleur heureuse des jeunes amants. S'en venaient les jours, lessivés par les pluies, des agonies paysannes piolaient dans les grands lits. Alors je m'en allais par les sentiers blêmes, des bohémiens sans musique, sans bohème. Ma marche tenait la solitude sur les pierres.
Le meilleur moyen de découvrir Xavier Graal, bah, c'est de lire À cheval sur le vent, c'est paru aux éditions Bruno Doucet, et puis d'aller lire aussi ses poèmes, oui, qui sont magnifiques, oui, et qu'on trouve encore. Donc,
oui, alors c'est son recueil de poèmes.
Ouais, je...
Alors, il a été édité, il y a toute son œuvre poétique qui a été éditée chez Rougerie. Je crois qu'au début, aujourd'hui, elle a été reprise aussi par un autre éditeur. Donc, son œuvre poétique est complète. Elle est préfacée par quelqu'un qui l'a bien connu, qu'il aime énormément, et qui m'a fait l'amitié d'aimer mon livre, qui est Yvan Lemaine.
Ah bah oui.
Hein, qui est un autre poète breton. Qui a bien connu, qui est plus jeune que Graal, mais qui a très bien connu Xavier Graal. Voilà, on trouve ses textes, toutes ses chroniques et ses romans sont aux éditions Terre de Brume. Mmh. Il a fait 3 romans, dont 2 ont un rapport direct avec le Maghreb, mmh. Africa Blues et Cantique à Melilla, qui fonctionne lui comme un polar. Et puis il y a quand même un certain nombre d'ouvrages sur Xavier Graal. Il y a une biographie, il en existait 2, mais une est épuisée aujourd'hui. Donc il y a une biographie d'Yves Loisel.
Ouais. Je pense que de toute façon, en cherchant voilà. Dans les bibliothèques...
Et puis il est sorti aux éditions Calligramme un recueil hommage qui s'appelle « Ne vivent haut que ceux qui rêvent
». Quel beau là, titre.
Avec Xavier Graal, où on retrouve des textes de Bruno Doucet, de Michel Lebris, de Manu Lanuel, qui est un chanteur, d'Yvan Lemaine et d'autres. Je croyais qu'on trouvait un texte de Pontus, mais non. Il me semble qu'il est dedans aussi. Et Jacques Gamblin, notamment, voilà.
Alors, à découvrir. Pour l'instant, en tout cas, lisez « À cheval sur le vent ». C'est de Patrick Péchereau. C'est paru aux éditions Bruno Doucet. Et question habituelle, Patrick, quand on se retrouve, bah, et maintenant, tu travailles encore? Tu as des idées? Il y a quelque chose?
Je travaille encore. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un cycliste, mais pour France Inter, qui s'appelle Gino Bartali, et qui était un grand champion cycliste des années 30, 40, 50, fin des années 30, et qui avait la particularité d'être un des rares, si ce n'est le seul, à avoir refusé de faire le salut fasciste.
Ah oui.
Qui appartenait à un réseau clandestin qui s'appelait le réseau des deux églises, qui faisait travailler des catholiques italiens et des juifs, et qui a passé un certain nombre de documents pendant la grande persécution des juifs en Italie à partir des années 40, dans les tubes de son vélo, et qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais raconté ce qu'il a fait. Et son action a été découverte a été révélée par une famille juive qui l'a cachée, son nom est maintenant à Yad Vashem, chez les Justes. Mais il n'a jamais voulu en parler, lui.
Oh, c'est génial.
Voilà. Ah. Gino Bartali, c'est un grand coureur en plus. Hein.
Ah, oui,
il a gagné le Giro, le Tour de France.
Je te crois, alors là, je suis pas. Et ce sera donc une fiction pour
France
Inter.
C'est une fiction pour l'émission de Stéphanie Duncan.
D'accord. Et au niveau livre, tu as quelques projets?
J'ai quelques idées, voilà.
Suite au prochain épisode.
Oui.
Je te remercie.
Merci à
une prochaine fois.
Merci à vous.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire. C'était donc Patrick Péchereau qui nous parlait de Xavier Graal au travers de son roman intitulé « À cheval sur le vent » paru aux éditions Bruno Doucet. Et maintenant, dans quelques instants, nous allons retrouver Emma Tolozan qui nous propose un premier roman paru chez De Noël qui s'intitule « Le rire des autres » qui est une espèce de conte satirique dont nous allons tout de suite entendre plus de détails. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et Débats, avec le plaisir aujourd'hui de recevoir Emma Tolozan pour un roman qui est paru aux éditions de Noël, qui s'intitule « Le rire des autres ». C'est un premier roman. Et moi, j'ai eu plaisir à le découvrir, parce que c'est un conte un peu cruel, et c'est un genre qui est un peu délaissé ces derniers temps. Et donc moi, ça m'a fait plaisir, Emma Tolozan, que vous reveniez à ce type d'histoire. Alors comment vous est venu le rire des autres ?
Alors en fait, c'est un texte qui est né de plusieurs thèmes qui m'intéressaient. Déjà la question du travail qui bah, pour moi symbolise le passage au monde des adultes, un peu redouté. Après, il y a évidemment la question de l'argent qui me semblait être un thème important à traiter parce que tout simplement c'est au cœur de notre vie, donc j'avais envie de le mettre au centre du livre. Et aussi, il y a la question du corps qui est très importante pour moi et surtout le corps dans ce qu'il peut avoir d'un peu monstrueux parfois et les expériences limites qu'on peut en faire. Et d'une manière générale, voilà, ces trois thèmes se sont regroupés et je me suis posé la question de savoir ce qui se passerait si notre corps se mettait à produire de l'argent spontanément, sans qu'on ait besoin de travailler, donc de manière biologique. Et c'est ça qui a fait un peu le nœud central du texte, et donc cette idée d'un personnage qui se met à vomir de l'argent.
Alors effectivement, on va en parler dans quelques instants, mais il faut préciser pour nos auditeurs et peut-être vos futurs lecteurs que la phrase que vous avez choisi de mettre en exergue de ce roman, Le rire des autres, est une phrase de Georges Perec, issu des choses quand même, ce n'est pas pour rien.
Oui, c'est vrai que c'est un texte qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu quand j'étais au lycée. Et en fait, c'est une phrase que je trouve très jolie parce que pour moi, ça décrit bien en fait l'espèce d'idéal de vie qu'on peut trouver dans une consommation plus ou moins frénétique d'objets et qui en fait ne mène à rien et qui à la fin... Enfin, les personnages de Perec, c'est la même chose que dans mon texte. À la fin, on n'a même plus cette envie-là. On n'arrive jamais à la combler. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cette phrase, parce qu'elle me paraissait très belle et décrire une mouvance un peu qu'on peut rencontrer aujourd'hui aussi.
Alors, cette histoire, vous l'avez développée au travers d'un personnage. C'est une jeune femme. Elle vient, comme vous l'évoquiez, de terminer ses études. Elle a fait un master de philo. Elle a dans l'espoir de pouvoir continuer, de faire un doctorat, d'être étudiante chercheuse. Et puis, bon, bah, on lui fait comprendre que de toute façon, vu l'état de l'université, c'est pas d'actualité. Elle a un père qui la console à chaque fois en faisant des crêpes. Donc ça, c'est son mode de fonctionnement. Et puis, elle va donc être obligée d'aller s'inscrire à Pôle emploi. Enfin, maintenant, ça a changé de nom, mais dans votre livre, c'est encore Pôle emploi. Elle va découvrir ce monde, cette salle d'attente, le fait d'avoir un numéro, d'attendre qu'on vous appelle et d'avoir une conseillère Pôle emploi. Qui là, en l'occurrence, s'appelle Marjorie.
Oui, effectivement, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer, d'exprimer le fait que c'est très dur, quand on a fait 5 ans d'études assez poussées, de s'entendre dire qu'on n'aura pas de travail, enfin, pas de travail associé, et surtout qu'on n'a aucune compétence, parce que c'est ce que Marjorie dit à Anna, le personnage. Et alors j'ai voulu le traiter de manière assez amusante pour que ce soit plus digeste, mais je trouve que c'est d'une grande violence. On sait aujourd'hui que le monde universitaire, voilà, c'est une image qu'il y a dans le texte, mais c'est un peu comme le Titanic, tout tient par des bouts de ficelle, mais il n'y a plus de financement pour la recherche. Les locaux sont parfois dans un état assez catastrophique, et donc c'est cette misère-là aussi de l'enseignement supérieur. Que j'avais envie d'exprimer modestement parce que c'est pas le sujet principal mais voilà.
Alors elle va effectivement partir en quête d'un emploi grâce à son absence de compétences. Marjorie va lui proposer d'aller dès le lendemain, elle est quand même très chanceuse, se présenter pour un poste qui est un poste de chauffeuse de salle. Et en même temps qu'elle va faire cette expérience de la recherche d'emploi, de la découverte du monde du travail, elle va aussi tomber amoureuse. Et les deux vont en parallèle. C'est vrai qu'elle rentre dans le monde adulte des deux façons, d'une certaine manière, au travers de l'amour et du fait de s'installer et de vivre avec un homme, peut-être pour la première fois, et puis de commencer cet emploi de chauffeuse de salle où elle va découvrir un milieu assez étonnant aussi. Alors comment s'est fait ce choix justement à la fois du personnage de Lulu, l'amoureux, et de l'emploi de votre narratrice, parce que on est totalement à l'antithèse l'un de l'autre. Deux univers s'opposent.
Oui, bah justement, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire un peu sortir Anna de sa zone de confort. Dans son parcours universitaire, voilà, elle est dans un univers qui est très intellectuel, où finalement, bah, la question du corps se pose pas trop parce qu'elle est reléguée au second plan. Et donc, dans l'univers amoureux, elle retrouve cette question du corps-là, avec un amoureux qui, lui, n'a pas fait d'études supérieures et qui s'entend très bien et qui travaille de ses mains. Et elle se retrouve aussi plongée dans un univers professionnel où le corps est au centre, puisqu'elle doit s'agiter pour faire rire les autres et déclencher aussi une réaction physique chez les spectateurs. Et donc ça m'intéressait. Et puis il y avait aussi le fait que voilà, son univers professionnel est tellement étranger à ce qu'elle connaît d'habitude que c'est des codes qu'elle ne connaît pas du tout, et je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression que quand on arrive dans le monde du travail, même si on fait plus ou moins un travail qui est en rapport avec nos études, c'est un sentiment un peu de... Enfin, on a l'impression d'être perdu, et c'est ça que je voulais retranscrire aussi dans le texte.
Tu t'appelles, tu aimerais bien réussir ta vie. Tu t'es entraîné dur pour devenir une star, en jouant la mascotte des pom-pom girls de Montbéliard. Ton truc à toi, c'était les arts plastiques, passer sur le billard, mourir jeune et vivre en kit. T'en as donné du fil à coudre à rendre plus expert, pour enfin devenir le cadavre exquis du nouveau millénaire. Et si t'as le cerveau dans les murs, rien sous morphine, t'es devenue plus bonne que la plus bonne de tes copines. Le visage plus tendu qu'une soirée chez Poutine, la poitrine plus gonflée qu'une évasion de Messrine, les fesses de Gilo, les seins d'amis sans pite, une arme en épée à ce monde, tout soit plus vite. Poupée gonflée à la polissée, ton plat préféré c'est le silicone carné. Poupée des irons à traits tirés, le pays de tes rêves c'est la Silicon Valley. Chercher l'amour et à faire du cinéma. T'as touché le jackpot en le croisant ce jour-là. Il s'appelle
Jean-Claude
et il est producteur d'une centaine de films amateurs. Il cherche une jeune première juste pour donner la réplique à Jean-Pierre Patouba dans
Gangbang en Jamaïque.
Toi t'aurais plutôt préféré tourner dans un Besson, un Luc ou un Eric avec des casiers d'action. Mais malgré tes 95 bonnes et M à deux tours de poitrine, tu resteras plus conne que la plus conne de ta copine. Le visage plus lifté qu'un coup droit de Nadal, les lèvres plus gonflées qu'un discours néolibéral, les seins de Pamela, les lèvres de Béat. Remonté Frankenstein est devenu l'enfance de l'art. Poupée gonflée à la polissée, ton plat préféré c'est le silicone carné. Poupée stressée au format varié, le pays de tes rêves c'est la Silicon Valley. On fera jamais aussi gonflé que tes lèvres botoxées. On aura beau se forcer, on aura beau se toxer. On fera jamais aussi gonflé que tes lèvres botoxées. On aura beau se forcer, on aura beau se toxer. On fera jamais aussi gonflé que tes lèvres botoxées. On aura beau se forcer, on aura beau se toxer. On fera jamais aussi gonflé que tes lèvres botoxées. Poupée gonflée à la polissée, ton plat préféré c'est le silicone carné. Poupée rusée aux appâts consommés, le pays de tes rêves c'est la Silicon Valley.
Alors, en plus, on, là aussi où les deux univers s'opposent, c'est qu'on est dans un univers avec ce monde des médias, de la télé, des spectacles, où on est dans la consommation immédiate et dans le fait qu'une image, une émission en chasse une autre en permanence, alors que Lulu, lui, il répare les objets. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport au temps que vous évoquez au travers de ce roman, Le rire des autres.
Oui, c'est vrai que la question du temps, je n'y avais pas pensé, mais oui, il y a un caractère de l'immédiateté dans... où tout va très vite, il faut toujours se dépêcher dans le monde de la télévision. Et c'est vrai qu'elle, quand elle rentre chez elle, elle retrouve un quotidien qui est beaucoup plus... Enfin, il a un... son petit ami, Lulu, a un rapport au temps qui est beaucoup plus sain. Parce que, enfin, c'est une phrase qu'on répète souvent. Avant, on réparait les choses et aujourd'hui, on les jette. Et c'est un peu cette opposition-là qui a à la fois dans sa sphère professionnelle, pardon, et dans sa sphère intime. Et ce personnage de Lulu, pour moi, il est aussi représentatif de... Elle se fait consoler par son père avant, et en quittant le nid familial, elle se fait aussi consoler par... Enfin, il passe son temps à essayer de la réparer. Même quand elle déraille vers la fin du texte, il essaie de lui remettre les pieds sur terre, et c'est un peu le facteur réalité qui s'oppose au monde un peu cauchemardesque de la télévision.
Alors, vous jouez beaucoup, Emma Tolozan, dans Le rire des autres, avec donc ce roman paru chez De Noël, avec, j'allais dire, tout ce qui est écriture métaphorique. C'est quelque chose que vous avez affectionné particulièrement ?
Non, pas forcément. Enfin, je vois pas trop ce que vous voulez dire.
Le fait, de passer par le biais du conte, le fait d'avoir ce couple d'oiseaux d'inséparables qui est présent et qui va être un des éléments aussi de l'histoire. Il y aura un voyage à Dublin avec des images particulières. Donc, comment est née votre écriture ? Comment vous avez travaillé ce roman ?
Alors, en fait, j'avais envie de faire quelque chose d'assez court parce que j'ai du mal avec le format long. Et c'est vrai que la question du conte, ça me paraissait... Enfin, j'ai l'impression que c'est un conte, mais pas forcément moralisateur, mais c'est ce que je voulais pas du tout. Et par rapport aux images et aux métaphores qu'on peut trouver, c'est vrai qu'en fait, c'était comme c'est un texte qui a la confluence d'univers très différents, j'avais envie de retranscrire à la fois une forme de naïveté qu'on peut trouver chez Anna, et qu'on trouve dans les personnages de certaines fables ou de certains contes, qui se retrouvent confrontés à... voilà, un élément perturbateur ou à quelque chose de difficile, et de les adoucir par une certaine forme d'humour, une forme de naïveté. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, excusez-moi.
Non, c'est pas grave, on parlait de comment était née cette écriture, justement, et le fait que, bon, moi, ça m'a ramené quelques années en arrière avec ce que pouvait faire Boris Vian, ce que pouvait faire Queneau, cette espèce de mélange entre l'humour et les histoires un peu merveilleuses, voire horrifiques d'une certaine manière, avec un humour un peu noir. Et là, c'est ce qui va se produire, puisque comme on l'a évoqué, Lulu, au sens propre du terme, va se mettre à vomir de l'argent. Son corps va donc se métamorphoser et devenir un outil de production, non pas au sens marxiste du terme, mais au sens concret, produire des pièces, des billets, enfin tout ce qui va changer complètement, révolutionner le quotidien de ce couple.
Oui, effectivement, en fait, Boris Vian, vous l'avez évoqué, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et par exemple, dans l'écume des jours, il y a cette métaphore avec Chloé qui a des
fleurs
qui dans les poumons. Et en fait, je trouve que l'intervention d'un élément surnaturel comme ça, moi, c'était très important et très intéressant parce que ça permettait déjà de faire passer quelques idées d'une manière plus marrante. Tout simplement, j'aime beaucoup rire, et donc je me dis que si j'arrive à faire rire quelques personnes, c'est bien aussi, et beaucoup plus digeste. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était, oui, d'avoir une histoire qui était très réaliste au début, et que cette intervention d'éléments fantastiques, ça ouvre une brèche dans laquelle le personnage s'engouffre, ou pas. Anna s'engouffre dedans, et Lulu, lui, a toujours ce rapport très réaliste et très concret à la vie. Et voilà, c'était quelque chose, ça me paraissait intéressant d'explorer ces deux points de vue au sein du même texte.
Oui.
Et est-ce que vous dites aussi sur le caractère un peu de devient improductif parce qu'il produit de l'argent, c'était aussi une manière pour moi de montrer cette forme d'exploitation du corps que Anna ressent au travail et que finalement elle retranscrit dans son quotidien sur son petit ami, puisqu'elle finit par lui faire mal, tout comme elle fait mal au travail aussi. Mm.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, clandestines, différentes entraînant, et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presto s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font perdre tout le chemin. Connaissons peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous ont une utile folie, laissez voir la mélancolie de d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour te souhait, vous serez dans l'oubli demain. Pour que le bonheur se vienne, il est rare qu'on se souvient des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entre vous. Au baiser qu'on ne sait pas prendre, au cœur qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors un soir de lassitude, tout un peu plein sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où l'argent va tomber du corps, son rapport à la matérialité va complètement changer. Anna va devenir autre, déjà parce qu'elle va rentrer dans le monde de la consommation et de l'hyperconsommation, et ça va avoir une telle influence sur elle que c'est ce qui donne d'ailleurs le titre au roman, son rire lui-même va se modifier, on va la voir différemment, elle va acquérir le rire des autres.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, c'est pas, en fait, c'est à travers les objets qu'elle acquiert grâce à l'argent qui provient de l'estomac de son petit ami, qu'elle obtient une certaine forme de reconnaissance sociale. Et en fait, c'est cette reconnaissance-là qui la grise et qui la change totalement, parce que c'est quelqu'un qui a toujours souffert, mais pas plus que les autres, mais qui a toujours souffert du fait de se sentir déclassée. Et donc, c'est vrai qu'elle ça se transcrit chez elle par la fascination pour le rire. Elle entend des rires toute la journée, des gens du public qu'elle trouve assez vulgaires. Mais à côté de ça, il y a des rires d'autres personnes qui sont d'un niveau social plus élevé. Et elle va se mettre à être complètement fascinée par ce rire-là, s'entraîner à le faire devant le miroir de sa salle de bain, jusqu'au jour où elle-même a acquis ce statut social-là et se met à rire comme les autres. Et ce que ses amis d'avant de l'université trouvent horrible, elle le vit comme une véritable consécration, parce que pour elle, c'est son entrée dans ce monde qu'elle désirait.
Oui, et il y a une, je veux dire, il y a un double phénomène de reconnaissance. Elle va acquérir ce rire et les autres de ce milieu assez factice du monde de l'audiovisuel vont la reconnaître aussi. Avant, elle est transparente, personne ne retient son nom, personne ne sait quand elle est là, ni où elle est, ni quoi que ce soit. Ça fait des mois qu'elle travaille quand d'un seul coup, elle apparaît comme venant travailler pour le premier jour. Enfin, vraiment, tout le monde se fout d'elle. Et à partir du moment où elle va avoir effectivement un sac de marques et de prix, on va la voir. Donc, c'est aussi toute la question de l'apparence. Et elle va tomber elle-même dans ce jeu des apparences.
Oui, bien sûr, parce qu'elle en vient même à changer son apparence physique. Elle change de couleur de cheveux, elle va chez l'esthéticienne, etc.
Elle est sur les réseaux sociaux aussi, elle est sur Instagram.
C'est ça. Et c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas avant, parce qu'évidemment, elle venait d'un milieu où l'apparence physique... On dit que l'apparence physique compte peu, et donc ça va complètement la transformer, et ça prend le pas sur tout le reste, y compris sur sa relation amoureuse. Voilà.
Alors, on n'en dira pas plus, Emma Tolozan, sur Le rire des autres, ce roman qui est paru chez De Noël, parce qu'il ne faut, pas dévoiler l'évolution de l'histoire. Mais moi, j'ai bien aimé, on va dire un petit peu si vous voulez bien, j'ai bien aimé les personnages secondaires, et particulièrement le contrepoint de la narratrice, qui est une jeune femme qui était étudiante avec elle et qui, elle, continue le chemin de la philosophie pour passer le CAPES. Et j'allais dire, c'est le fil rouge philosophique du roman, et qui est très drôle. Donc, c'était assez intéressant, ce jeu de miroir.
Oui, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup aussi. J'avais envie de montrer quelqu'un qui continue dans cette voie de la philosophie à travers le concours du CAPES. Et donc, ce personnage, Sophie, elle est assez marrante parce qu'elle est toujours dans ses problématiques étudiantes. Elle n'a pas le temps de se faire à manger, elle n'a pas le temps de faire des courses, donc elle mange des nouilles instantanées toute la journée.
Cru.
Elle appelle Anna à 3h du matin pour lui demander une question d'un point de détail d'un texte qu'elle n'a pas compris. Et en fait, c'est aussi cette séparation-là. Qui est un peu regrettable entre les gens qui commencent à travailler et ceux qui sont toujours dans le système scolaire, que j'avais envie de mettre en exergue, parce que Anna, elle, est préoccupée par des choses beaucoup plus matérielles. Et donc, je trouvais ça intéressant de prendre ces deux amis-là et de voir ce qui se passait, et surtout de voir que l'évolution de Sophie, qui, elle aussi, est une forme de désillusion, parce qu'elle... Elle mise tout sur ce concours et elle s'aperçoit que finalement, même en l'ayant obtenu, la réalité n'est pas aussi joyeuse et belle qu'elle l'avait espéré.
C'est pas vraiment le Graal.
Non.
Ça s'appelle Le rire des autres, c'est d'Emma Tolozan, c'est paru aux éditions de Noël. Découvrez ce premier roman, mais alors, question habituelle, Emma Tolozan, quand on a un auteur qui vient de publier... Un premier livre, vous avez déjà des projets pour la suite? Vous travaillez déjà sur quelque chose d'autre?
Oui, j'aimerais bien, toujours sur cette question du corps qui me tient à cœur, et peut-être aussi en mêlant encore un élément un peu fantastique, parce que je trouve que ça ouvre des possibilités au niveau de l'écriture qui sont très intéressantes. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas. Lisez Le Rire des Autres, c'est des matolosans qui étaient avec nous aujourd'hui et c'est paru aux éditions de Noël. J'espère une prochaine fois.
Merci.
On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a l'allô, le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrêtent sous les fourches codines à l'envers.
Voilà, c'était donc Le Rire des Autres des Matolosans. C'est paru aux éditions de Noël et ça nous mène à la fin de cette émission Idéaux et Débats où nous avons également parlé de À cheval sur le vent de Patrick Péchereau, paru aux éditions Bruno Doucet. On arrive à la fin. On se retrouve dans 2 semaines. Il y sera question du roman de Marion Fayolle et probablement d'un autre d'Élodie Chaban. D'ici là, bah, restez à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89,4 MHz. Merci, portez-vous bien.
parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître ?
Alors ? Alors ?
Je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Au rayon PQ, plus de papier, une attestation dans la main, l'avenir a un goût de quotidien. En zéro d'un monde possible, putain d'ennemis invisibles. Les médecins disent on manque de tout, on pourra pas tenir longtemps le coup. Des gants, des masques, des respirateurs. Ô France, qu'as-tu fait de ta grandeur? Dans l'hôpital qui traîne ses grèves, on donne sa vie pour pas qu'on crève. Même si pas plus tard qu'hier, on matraquait les infirmières. Y'a de quoi péter un fusible, saloperie d'ennemis invisibles. Les chaînes d'infos en continu, les mêmes images d'un monde disparu. Discours d'experts, de spécialistes, encore de nouveaux noms sur la liste. Au milieu des arrêts d'usine, du pour ou contre la chloroquine. Sur les réseaux, il y a des chansons, des cœurs qui battent à l'unisson. Oh, qui demain en sera la cible? Saleté d'ennemis invisibles. Tant de détresse, tant de malades. Un fils, une grand-mère à l'EHPAD. Et toi, mon amour, que fais-tu? Si loin de l'autre côté de la rue. Moi, j'ai posé sur ma guitare quelques couplets, un peu d'espoir. Cette poésie pour faire un signe à ceux qui sont en première ligne. Faire face à l'ennemi invisible, rêver encore à l'impossible. Faire face à l'ennemi invisible, rêver encore à l'impossible. Faire face à l'ennemi invisible.
face à l'ennemi invisible.
Radio Libertaire 89.4.
Appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La